Lettre 66e, continuation de la lettre d'Evelina, Clifton Hill, le 24 septembre. Je suis descendu aujourd'hui de bonne heure et, comme on déjeune tard ici, j'ai eu le loisir de faire ma promenade du matin, selon l'ancienne coutume que j'ai contractée à Berry Hill. Je traversais le jardin et je n'eus pas plus tôt fermé la porte derrière moi que je vis un homme dont je crus reconnaître la physionomie, et en effet c'était l'infortuné M. McCartney. Surprise de cette rencontre, je m'arrêtai pour lui laisser le temps de me joindre. Il était encore en habit de deuil, mais sa santé paraît avoir gagné le dessus, quoique je lui ai trouvé cet air mélancolique qui me frappa la première fois que je le vis. Il me dit qu'il n'était arrivé que depuis hier à Bristol, qu'il n'avait eu rien de plus pressé que de me rendre ses devoirs. Saviez-vous donc que j'étais à Clifton ? Oui, madame, je viens de Berry Hill, où j'ai appris la fâcheuse nouvelle que votre santé vous avait obligé d'aller aux eaux. Et qui peut vous engager, monsieur, à prendre tant de peine ? Oh, madame, y a-t-il une peine qui puisse égaler le désir que j'avais de venir vous faire mes remerciements ? Je m'informai ensuite de madame Duval et de la famille de Snow Hill. Il me dit qu'il les avait laissés bien portants et que madame Duval se proposait de retourner bientôt à Paris. Je félicitai aussi M. McCartney sur l'amélioration visible de sa santé. « C'est vous, madame, me répondit-il, qui devez vous en faire compliment, car si j'existe encore, j'en suis redevable à vos seules bontés. » Il ajouta que ses affaires étaient à présent sur un meilleur pied, et qu'il espérait qu'à l'aide du temps et de la raison, il parviendrait à supporter son sort avec plus de résignation. « L'intérêt généreux, poursuivit-il, que vous avez pris à mon affliction, m'était garant que vous apprendriez avec quelque plaisir le changement de ma situation. Il est juste que vous en soyez instruite. » Peu après votre départ, je reçus des nouvelles de Paris. Mon ami quitta cette capitale d'abord après la réception de ma lettre et vola vers moi pour me consoler et pour m'assister. J'ai accepté ses secours. Oui, j'étais capable de cet effort. Et mon premier devoir est de m'acquitter envers celle qui, par ses bienfaits, m'a soutenu dans le malheur. Voici, madame, et il me présenta un rouleau de papier. Voici la seule partie de mes obligations qui puisse être acquittée. Je vous en ai de plus essentielles, mais elles ne peuvent être payées que par ma reconnaissance, et à ce prix je consens volontiers à rester votre débiteur pour toute la vie. Je lui témoignai combien je prenais de part à ce retour de sa fortune, mais je le priai en même temps de me laisser le plaisir d'être de ses amis, et de me dispenser par conséquent de recevoir le remboursement de mes avances avant que ses affaires fussent entièrement rétablies. Pendant que nous discutions ce point, j'entendis la voix de Mylord Orville qui demanda au jardinier s'il ne m'avait pas vu. J'ouvris la porte, et le Lord, étonné de me trouver là, me dit avec une espèce de vivacité « Êtes-vous sorti seul, Miss Anville ? Le déjeuner est servi depuis longtemps et on vous a cherché de tous côtés dans le jardin. Vous êtes bien bon, Mylord, mais j'espère qu'on ne m'a point attendu. Comment, madame, croyez-vous qu'on puisse déjeuner à son aise quand on craint que vous vous soyez enfui ? Mais venez, de grâce. On croirait sans cela que vous m'avez fait déserter aussi par attraction. Je suis à vous dans l'instant. » Puis, me tournant vers M. McCartney, je lui souhaitai le bonjour. Il me suivit, son rouleau à la main. « Non, lui dis-je, ce sera pour une autre fois. Pourrais-je donc avoir l'honneur de vous revoir encore ? » Je n'osais pas inviter un étranger chez Mme Beaumont, et je n'eus pas non plus assez de présence d'esprit pour lui faire mes excuses. Ainsi, ne sachant comment le refuser, je lui proposai qu'il se promena demain de ce côté à la même heure, je pourrais bien l'y rencontrer. M. McCartney nous ayant quittés, j'observai que Mylord Orville changeait de visage. Il ne m'offrit point son bras et marchait tristement à côté de moi sans parler. Je me doutais d'abord de ce qui pouvait avoir donné lieu à une altération aussi subite. Aurait-il pris ombrage, me disais-je, de cet entretien matineux ? Quoi, il s'imaginait que cette entrevue d'aujourd'hui était concertée ? Et que c'est dans ce dessein que je suis sorti de si bonne heure. Tourmenté par cette idée, je résolus de me prévaloir de la liberté à laquelle ces procédés obligeants m'ont accoutumé depuis que je loge ici. Et comme il affectait de ne pas me faire la moindre question sur cette aventure, je cherchais la première à amener une explication en lui demandant hardiment s'il n'était pas surpris de m'avoir trouvé en conversation avec un étranger. « Avec un étranger, répondit-il, serait-il possible que cet homme vous fût inconnu ? » ?»« Pas absolument, si vous voulez. Seulement il se pourrait... » « Pardonnez, Je ne croirai jamais que Miss Anville soit capable d'accorder un rendez-vous à un inconnu. Que dites-vous là, my lord ? Il me semble du moins, si j'ai bien entendu, qu'il en était question. Cette parole me confondit, et je n'avais plus le courage d'achever ma justification. Cependant, mon silence n'aurait fait qu'augmenter ses soupçons, qu'il m'apportait trop d'écarter. Je repris donc. « En effet, my lord, vous êtes dans l'erreur. Monsieur McCartney est en relation avec moi. Et je n'ai pu m'empêcher de le voir. Mais mon intention n'était pas... » Je demeurai court une seconde fois. « En vérité, je suis fâché, madame, de ce que, sans le vouloir, j'ai commis une indiscrétion. Si j'avais su que vous fussiez en affaire, je ne vous aurais pas suivi. Je m'imaginais bonnement que vous étiez sorti pour prendre l'air. » Aussi était-ce là mon plan, et cette rencontre avec M. McCartney est absolument l'ouvrage du hasard. Cela est si vrai que je me passerai de le revoir demain si vous me le conseillez. Je n'ai point de conseil à vous donner là-dessus, et Miss Anville doit savoir mieux que personne ce qu'il convient de faire. Elle aurait tort de s'en rapporter sur un point aussi délicat à l'arbitrage d'un tiers qui n'est pas au fait de ses liaisons avec cet étranger. Vous pourriez les connaître de plus près, my lord, si ce n'était pas abusé de votre attention. J'ai toujours admiré la douceur de votre caractère et l'offre que vous me faites de vouloir bien m'initier dans vos secrets m'honore trop pour que je ne l'accepte pas avec empressement. Dans ce moment même, Mme Selwyn ouvrit la porte du salon et il fallut mettre fin à notre conversation. On me railla un peu sur mon goût pour les promenades solitaires, mais il ne fut pas question de ma longue absence. Je me flattais que je pourrais reprendre mes confidences après le déjeuner. Mais nous fûmes interrompus par une visite de messieurs Merton et Coverley, toujours fort intrigués l'un et l'autre de leur course de vieille. Ils sont venus demander à Madame Beaumont son jardin pour leur servir de champ clos. Elle y a consenti, et ce spectacle singulier se donnera mardi prochain. Nous avons été importunés par d'autres visites, et dans toute la matinée, il ne m'est pas resté un quart d'heure pour m'expliquer avec Mylord Orville. J'en étais d'autant plus fâché que je le savais engagé en ville pour ce soir. Ainsi, ne voyant pas d'apparence de pouvoir lui parler avant le moment fixé du rendez-vous, je me décidai, plutôt que d'encourir sa censure, à manquer de parole à M. McCartney. Mais en pesant la situation du pauvre Écossais, ses malheurs, sa tristesse, et surtout l'idée qu'il a de ce qu'il appelle ses obligations envers moi, je ne peux me résoudre à violer ma promesse, de peur de lui donner une marque de mépris. Car tout homme qui languit dans la misère n'est que trop enclin à soupçonner qu'il inspire ce sentiment. Un billet me parut propre à me tirer d'embarras et à sauver ma délicatesse. Voici les lignes que j'écrivis à M. McCartney et que je lui fis tenir par le domestique de Mme Selwyn. « Monsieur, il m'est survenu des empêchements qui dérangent ma promenade de demain matin. Ne vous donnez donc pas la peine de venir me trouver à Clifton, mais n'oubliez pas que je compte encore sur le plaisir de revoir avant que vous quittiez Bristol. Je suis, monsieur, votre très humble servante, Evelina Anville. » Je recommandai au domestique de rendre cette lettre en main propre et je rentrai. Les visites s'étant retirées et les dames étant allées faire leur toilette, je me trouvai seul avec Mylord Orville. Dès qu'il vit que je me préparais à suivre Mme Selwyn, il me retint en disant « Miss Anville excusera-t-elle mon impatience si je lui rappelle la promesse qu'elle eut la bonté de me faire ce matin ?» Avant que j'eusse le temps de répondre, les domestiques entrèrent pour couvrir la table. Mylord Orville se retira dans une croisée, et pendant que je me consultais sur les ouvertures qu'il me demandait, je m'arrêtai à l'idée que je n'avais aucun droit de révéler les secrets de M. McCartney. Il était clair qu'en me justifiant d'une imprudence, j'allais en commettre une seconde. Pour ne point agir avec trop de précipitation, je crus qu'il ne me restait d'autre parti à prendre que de quitter la chambre. J'alléguai donc pour prétexte les soins de la toilette et je sortis brusquement. Ma retraite aura peut-être déplu à Mylord Orville, mais que devais-je faire? Le hasard veut toujours que je me trouve dans des situations si neuves, les moindres difficultés me paraissent d'abord si embarrassantes qu'en vérité je sais rarement quelle conduite tenir. Nous nous étions assemblés vers l'heure du dîner, quand le valet de Mme Selwyn vint me rapporter ma lettre, en m'annonçant qu'il n'avait pu découvrir M. McCartney, mais que les facteurs de la poste lui avaient promis de me l'envoyer dès qu'il le trouverait. J'étais confuse de la publicité de ce message. Mylord Orville me fixa avec attention, et son regard significatif n'était guère propre à me tranquilliser. Il ne me dit rien à table, et moi-même je n'eus pas le courage de parler. Je me levai dès que je le pus, et j'allais m'enfermer dans ma chambre. Madame Selwyn m'y suivit, et à force de questions, elle parvint à savoir tous les détails de mes liaisons avec M. McCartney. Cet aveu était nécessaire pour excuser la lettre. Mais mon récit n'obtint point l'approbation de Madame Selwyn. Elle traita cette affaire de romanesque et jugea le pauvre McCartney avec la dernière rigueur. À l'en croire, cet homme n'était qu'un aventurier et un imposteur. Je ne sais plus où j'en suis, et je me perds dans ces réflexions. Comment m'y prendrais-je pour satisfaire Mylord Orville? Ne serait-ce pas une lâcheté, une trahison, de divulguer l'histoire des malheurs de M. McCartney? Il s'est fié à moi, il compte sur ma discrétion, il m'a recommandé le secret comme une chose sacrée. Mais d'un autre côté, comment écarter les soupçons de Mylord Orville? Comment pallier ces entrevues qui, à ses yeux, ont tout l'air d'un mystère, d'une intrigue peut-être? Il est devenu sérieux. J'ai promis de le satisfaire. Voilà des motifs qui m'autorisent suffisamment à lui accorder la confiance qu'il attend de moi. Verrai-je ensuite ou non M. McCartney demain matin? C'est une autre question que je n'ai pas l'esprit de résoudre. Que ne puis-je, monsieur, vous demander vos directions et m'épargner ainsi des faux pas? Mais non, je ne trahirai point M. McCartney. Je ne manquerai point à ce que je lui dois. Mon honneur y est intéressé et je tiendrai ferme. Sans doute que je serais bien aise si je pouvais contenter Mylord Orville, mais cette complaisance ne s'accorderait pas avec le repos de ma conscience. Je suis sûr, monsieur, que j'aurai votre suffrage. J'y attache le plus grand prix, et je laisse ensuite autant le soin de me justifier. Me voici plus tranquille, plus d'accord avec moi-même, mais je ne finirai pas encore ma lettre avant que tout ceci soit tiré au clair. Le 25 septembre. Je me suis levé de grand matin, et après avoir ruminé différents plans, après avoir été longtemps en suspens si je verrais M. McCartney, ou si je lui manquerais de parole, j'ai arrêté enfin que je serais exact au rendez-vous, mais qu'en même temps cette entrevue serait aussi courte que possible, et décidément la dernière. Tel fut le résultat de mes délibérations. Mais je n'étais pas encore sûr de mon fait, et je ne traversais le jardin qu'en tremblant. Jugez de mon émotion lorsqu'en ouvrant la porte, le premier objet qui frappa ma vue fut Mylord Orville. Il était décontenancé lui-même et il me dit en balbutiant « Pardonnez, madame, je ne m'attendais pas, je ne pouvais pas m'imaginer que je vous rencontrerais ici d'aussi bonne heure. Si je m'en étais douté, je n'y serais point venu. » Et après m'avoir salué fort à la hâte, il passa outre. Sans savoir ce que je faisais, je voulus le rappeler. Le mot de Mylord m'échappa, mais involontairement. Il se retourna et me demanda si je désirais de lui parler. Je ne pus lui répondre, j'étais comme suffoqué, et je ne me soutenais qu'en m'appuyant contre la porte du jardin. Mylord Orville reprit bientôt toute sa dignité. « Je conviens, me dit-il, que j'ai tort de me trouver ici dans ce moment. J'aurai de la peine à me disculper. Je sais que vous êtes en droit de m'accuser d'une curiosité indiscrète. Il ne me reste qu'à vous faire mes excuses et à me retirer. » Il disparut en effet comme un éclair. Je demeurai immobile comme une statue. Mon premier mouvement fut de faire un aveu formel à Mylord Orville de tout ce que ma conduite semblait avoir de mystérieux. Mais j'abandonnai aussitôt ce projet. Quelque flatteur qu'il fût pour ma vanité, un plus noble orgueil m'inspira la résolution de garder religieusement le secret de M. McCartney. Je me décidai même à éviter toute explication, à moins que je n'en fusse pressé singulièrement. Mylord Orville avait repris le chemin de la maison. Avant que d'entrer, il se tourna encore de mon côté, mais s'étant aperçu que je le suivais des yeux, il ferma la porte et je ne le vis plus. Convenez, mon cher monsieur, que j'étais là dans une situation désagréable. Être soupçonné par Mylord Orville de mener secrète, cette idée me déchirait le cœur. Je n'étais pas dans une assiette à attendre M. McCartney, et tout aussi peu disposé à garder mon poste, pour ainsi dire, sous les yeux du Lord. Il fallut donc penser à revenir sur mes pas, et je me traînais lentement le long d'une allée. Je suppose qu'Orville me vit arriver des fenêtres du salon, il courut vers moi, et en m'offrant son bras, il me demanda si j'étais indisposé. Je lui répondis par un non, prononcé avec toute la fermeté dont j'étais capable. Je ne laissais pas d'être sensible à son attention, je ne m'y étais point attendu. Mais du moins vous accepterez mon bras. Oui, madame, vous ne sauriez vous en dispenser. J'aurai l'honneur de vous accompagner. Et sans autre cérémonie, il s'empara de ma main. je dirais presque par force. J'étais trop surprise et trop peu accoutumée à des instances aussi pressantes de la part de Mylord Orville pour lui résister, et nous retournâmes ensemble au logis. Il insista pour que je prisse un verre d'eau, mais je le remerciai et je l'assurai que je me trouvais parfaitement bien. J'étais décidé à ne point me départir du système que j'avais adopté la veille. Ainsi, il n'était plus question de compromettre M. McCartney, mais il m'importait également de me rétablir dans l'esprit de Mylord Orville, et son silence, son air pensif, me décourageait. Ma situation devenait toujours plus pénible, et je compris que je n'avais d'autre choix à faire que de monter dans ma chambre et d'y attendre l'heure du déjeuner, car je craignais qu'en restant plus longtemps avec le Lord, je n'eusse l'air de l'inviter à me faire des questions, et une pareille avance me paraissait des plus déplacées. Comme j'étais sur le point de prendre le chemin de la porte, il s'avança vers moi et me demanda si je partais. Je lui dis que oui, et en même temps je restais. « Peut-être, reprit-il, pour retourner au... Mais pardon. » Il ne fut pas difficile d'achever la phrase. L'air confus et embarrassé d'Orville nommait assez distinctement le jardin. Ainsi, pour le désabuser, je lui annonçai que je me retirais dans ma chambre. Je serais sorti tout de bon si le Lord ne m'avait retenu. Ma question l'avait convaincu que je comprenais son allusion, et craignant apparemment qu'elle ne m'eût déplu, il chercha à corriger ce qu'elle pouvait avoir de choquant et me dit avec un sourire forcé « Je ne sais quel mauvais génie me pousse ce matin. Je n'agis et je ne parle qu'à contresens. Je suis honteux de moi-même, et j'ose à peine, madame, implorer mon pardon. »« Votre pardon, my lord, parlez-vous sérieusement ? » ?»« Pouvez-vous en douter ? » ?»« Mais s'il m'est permis d'être mon propre juge, je lis déjà dans les yeux de Miss Anville qu'elle me fait grâce. » « Je ne vous comprends pas, my lord. Tout pardon suppose une offense, et je ne sache pas que vous m'en ayez fait. »« Vous êtes la bonté même, mais je n'attendais pas moins d'une douceur qui est au-dessus de toute comparaison. Ne m'accuserez-vous pas d'être un persécuteur si je profite de vos dispositions favorables pour vous rappeler, encore une fois, la promesse que vous daignâtes me faire hier ? Point du tout. Je serais même charmé d'acquitter la dette que j'ai contractée envers vous. » « Vous ne me devez rien, madame. Il est question seulement de contenter ma curiosité qui, j'en conviens, est vivement excitée. » Nous prîmes des sièges, et après une courte pause, je rassemblai tout mon courage et je poursuivis en ces termes. « Vous allez croire peut-être, my lord, que je suis une fille inconséquente et capricieuse si je vous avoue que j'ai lieu de regretter la promesse que je vous ai faite. Je dois même vous prier de ne pas trouver mauvais que je ne l'accomplisse point à la lettre. Je me suis précipité sans savoir ce que je disais, sans réfléchir à quoi je m'engageais. Le Lord gardait un profond silence et m'écoutait attentivement. Ainsi, je continuais. Si vous pouviez savoir, my Lord, les circonstances de mes relations avec M. McCartney, je suis sûr que vous approuveriez ma réserve. Cet étranger est d'une famille honnête et il s'est trouvé dans le malheur. C'est tout ce que j'en puis dire. Cependant, s'il était informé que vous vous intéressiez à ses affaires, « je ne crois point qu'il vous en fit un mystère. Voulez-vous que je lui en parle ?»« Point du tout. Ce ne sont point ces affaires qui me tiennent à cœur. Je n'en suis pas curieux le moins du monde. »« Je ne vous ai donc point compris, my lord. »« Pouvez-vous imaginer, madame, que je m'intéresse aux affaires d'un homme qui m'est absolument inconnu ?» Le ton froid et sérieux dont il me fit cette question m'humiliait un peu. Mais il adoucit avec sa délicatesse ordinaire ce qu'elle pouvait avoir de trop piquant. « Je ne prétends pas, ajouta-t-il, parler avec indifférence de quelqu'un qui a l'honneur d'être de vos amis. Loin de là, il suffit de porter ce titre pour m'inspirer un véritable intérêt. Seulement, vous conviendrez, madame, que j'ai lieu d'être surpris, qu'au moment où je me flatte d'être honoré de votre confiance, vous me la retiriez. Mais je n'en respecte pas moins vos raisons, et je m'y soumets aveuglément. » Peu s'en fallut que je ne succombais à la tentation de révéler au Lord tout ce qu'il aurait voulu savoir. Je suis bien aise pourtant d'avoir été mieux sur mes gardes, car outre le tort réel que j'aurais eu à me reprocher, il n'aurait pas manqué de me blâmer lui-même de mon inconséquence. Cette réflexion décida aussi ma réponse. « Jugez-en vous-même, lui dis-je. La promesse que je vous ai faite, quoique volontaire, était imprudente et peu réfléchie. Cependant, si elle me regardait seule, je ne balancerais pas un moment à la remplir. Mais l'étranger dont il s'agirait de divulguer les secrets... « Excusez si je vous interromps, madame. qu'il me soit permis de vous assurer que les affaires de cet étranger n'excitent ma curiosité qu'autant qu'elles ont rapport aux démarches d'hier matin. » Il s'arrêta, mais c'était en dire assez, je pense. « Si ce n'est que cela, répliquai-je, vous serez satisfait. Monsieur McCartney avait à me parler en particulier, et je n'ai osé prendre la liberté de le faire venir ici. Et pourquoi non? Madame Beaumont n'aurait-elle pas... Je craignais d'abuser de sa complaisance, et j'ai promis à Monsieur McCartney une seconde entrevue, tout aussi légèrement que je vous ai promis ensuite de vous confier ses secrets. Et ce rendez-vous a-t-il eu lieu? Non, my lord, je me suis retiré avant qu'il fût arrivé. » Nous nous regardâmes tous deux sans rien dire, mais comme je voulais prévenir des réflexions qui ne pouvaient que tourner à mon désavantage, je repris hardiment. « Jamais jeune personne n'eut plus besoin que moi du conseil de ses amis. Je suis neuve dans le monde et peu accoutumée à agir par moi-même. Mes intentions ne sont point mauvaises et cependant je fais des fautes à chaque instant. Jusqu'ici, j'ai joui du bonheur d'avoir pour ami un homme très capable de me diriger et de me conduire. Aujourd'hui, il est trop éloigné de moi pour que je puisse recourir à lui dans les occasions où ses avis me seraient nécessaires. Et ici, je n'ai personne à qui je puisse m'adresser. » « Veuille le ciel !» s'écria Orville avec le ton le plus affectueux, et d'un air où il ne restait plus la moindre trace de froideur. « Veuille le ciel que je sois en état de remplacer dignement l'ami de Miss Anville !»« Vous me faites trop d'honneur, my lord. Cependant, j'ose espérer que votre candeur, je dirais même votre indulgence, me passera mes petites fautes en faveur de mon inexpérience. Puis-je m'en flatter ?»« Si vous le pouvez !» Et puis-je à mon tour espérer que vous oublierez avec quelle mauvaise grâce je me suis rendu à vos raisons? M'est-il permis de sceller ma paix? Il pressa ma main contre ses lèvres. « Oui, » reprit-il. « Je la regarde comme conclue, et nous voici les meilleurs amis du monde. » Je n'eus le temps que de retirer ma main, on ouvrit la porte, et les dames entrèrent pour déjeuner. J'étais pendant toute cette journée la plus heureuse des filles. Être réconciliée avec Mylord Orville, et avoir suivi fermement le plan que je m'étais proposé, pouvais-je espérer davantage? Le lord aussi a été d'une gaieté charmante, il a redoublé d'attention et d'égards pour moi. Cependant, je ne voudrais pas que cette scène fût à recommencer. Combien la crainte d'être mal dans son esprit ne m'a-t-elle pas fait souffrir? Mais que pensera le pauvre monsieur McCartney? Au milieu de ma joie, je regrette d'avoir été dans la nécessité de lui manquer de parole. « Adieu, mon très cher monsieur. »